plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour, bonjour les accros de l'étrange, voici notre programme. D'abord une nouvelle d'Olivier Delot. Que s'est-il passé quand l'esprit quitte son corps pour une absence absolue et temporaire? Dans un esprit tout contraire, je vous parlerai de réincarnation individuelle. Eh oui, peaufinez votre karma. Que s'est-il passé? Nous roulions sur une petite route de montagne. Au volant de l'auto, j'amorçais juste la descente vers la vallée. Si mes souvenirs ne me trompent pas, nous avions dîné 2 heures auparavant sur ces hauteurs au fond d'une modeste auberge encastrée dans un hameau de pierre. Et maintenant, nous étions seuls au milieu de la nuit sur cette route inconnue. Les bords de la voie étaient couverts de genêts. Les buissons qu'ils formaient nous auraient dépassés en hauteur. Nous les voyions, ces buissons, privés d'éclat dans la lueur des phares, tels les éléments en noir et blanc composant le négatif d'une photo. Jacques ne disait rien. Mâchoire serrée, il regardait sans le voir le ruban de goudron devant. Sans doute étions-nous fatigués au-delà du disciple. Nous avions quitté le Grand Sud algérien 2 semaines auparavant. Traversant la Tunisie du bas de la carte jusqu'en haut, nous avions souvent débordé de notre axe pour visiter. De la même façon, nous avions voulu voir le maximum de sites en Sicile, égrenant ce chapelet en quelque sorte imposé. Palerme, Montréal, Trapani, Agrigente, Syracuse, Taormina. Et à présent, en Italie, au fond du pays, saturé de routes, nous roulions encore, pourtant. Il fallait bien remonter, finir le voyage. Je regardais Jacques. Une impression de malaise croissait en moi. Jacques semblait totalement absent. Aurait-il dormi qu'il ne l'eût pas été plus? Dans son abandon de dormeur, il y aurait eu alors un souffle lent, étiré, le bruit d'une déglutition, une profonde aspiration nasale. Ici, rien de tel. Jacques ne dormait pas. Absent, immobile, il fixait la nuit, sans que bougeât l'un de ses cils. On l'aurait dit transformé en statue. À vrai dire, ce n'était pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, mon Dieu, je n'ose dire ce que c'était. Je n'ose dire ce que c'était, pas plus que je n'osais à cet instant dans l'auto faire la seule chose naturelle qui fût. Car peut-être, il aurait suffi de ceci. Murmurer doucement, Jacques, lui toucher le bras. Très certainement, alors je l'eusse tiré de sa torpeur. Le sang fut revenu sur ses joues, la vie dans ses yeux, de nouveau animé. Mais je n'osais pas. Je n'osais pas demander Jacques. Je n'osais pas émettre une parole, une réflexion banale inspirée par la route, que sais-je. Je n'osais rien dire. Et encore moins toucher le bras de mon passager. Je laissais mon cœur s'emplir d'angoisse, s'oppresser. Car si je n'avais pas osé alerter Jacques d'une manière ou d'une autre, j'ai du mal à l'écrire, c'est qu'il ne m'eût pas entendu, c'est qu'il ne m'eût pas répondu, c'est qu'il n'eût aucunement perçu mon appel. Non, il n'eût pas répondu. Il ne l'aurait pas pu. Pas plus que s'il avait été à 100 lieues. Car il n'était pas là. Par quel phénomène terrible ? Je ne sais. Mais Jacques n'était plus là. Même si, à un sens, il demeurait quelque chose de lui. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais tant répugné à toucher son bras. Son corps était, pour ainsi dire, réduit au concept que j'en avais, à l'image que j'en avais. Une image élaborée précédemment dans bien des voyages que nous avions faits ensemble, ainsi, de la même façon. Une image, un souvenir, une construction de l'esprit. Sensation nauséeuse, profondément écœurante. Jacques absent, recréé, artificiellement maintenu dans cette perception intellectuelle, dans ce que j'appellerais ma vivante mémoire de lui. Mémoire assez forte dans l'instant pour donner l'illusion d'une présence. Jacques vu à l'envers, en quelque sorte, tels les éléments en noir et blanc sur le négatif de la photo. Je n'ai pas voulu risquer d'apprendre quelque chose, de savoir. J'ai préféré nier, en bloc. J'ai cessé de regarder mon voisin. L'impression affreuse qui était en moi, je préférais la pensée produite par la fatigue, le vin bu à l'auberge. Sans doute y a-t-il dans certains camps d'épuisement des altérités de la conscience, à cause desquelles un homme, là, tout proche, peut sembler n'être que le souvenir, devenu matière ou l'image devenue chair de ce que cet homme fut. Sans doute y a-t-il dans certains cas des preuves physiques inhabituelles, pleines de répercussions sur notre être profond. Sans doute y a-t-il des modifications en soi, l'apparition de lois nouvelles à cause desquelles, chez quelqu'un que l'on observe, qui est à côté, un voyage hors du corps, par exemple, est possible, et la chose la plus aisée. Le voyage hors du corps, ou plus que cela encore. Je ne savais où se trouvait Jacques. Tout ce que je pus dire est que durant 3 ou 4 minutes, ce ne fut plus lui. Il n'y eut personne à sa place. Il n'y avait personne à côté de moi. Regardant la route conduisant, j'imaginais, allez savoir pourquoi. Mon compagnon de voyage au bord de la mer sur la plage. Il avait étendu sa serviette. Allongé, il s'enduisait d'ambre solaire. Ayant fini, posant le flacon, il disait quelque chose que je ne comprenais pas. Le vent emportait ses paroles. Je n'avais pu les saisir, trop lointaines l'image, ou trop frêles les mots. Je me contraignis à le regarder à nouveau dans l'auto. Je ne le voyais pas. Cette partie de route était-elle plus obscure encore? Un reflet peut-être sur des cheveux, et peut-être l'arête du profil. J'éprouvais le besoin de dire quelque chose, alors je pensais à ces mots inoffensifs au possible. « Jacques, tu devrais me passer la carte. Je ne sais plus où l'on est. La carte qui, soit dit en passant, n'est pas à sa place habituelle. Tu l'as glissée distraitement dans ton sac tout à l'heure. » Rien n'aurait été plus en situation. Il avait toujours été dit que lorsque nous roulions, la carte devait se trouver à portée de nos mains, dépliée sur le siège arrière, mettons. Mais ces mots simples, je ne les formulais pas. Je n'ouvris pas la bouche. Ainsi, je ne saurais jamais. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé ce soir-là. Un reflet deviné, l'arête d'un profil, et de nouveau cette apparence de statue. Mais au moins l'apparence était-elle à présent. Au moins la statue était-elle. À présent, de Jacques, je voyais les traits, des traits durs, ceux d'un homme pris par une question taraudante. Pour autant, sur les rides de ce front, la vie semblait prête à passer désormais. Je me fis cette réflexion, singulière quand on y pense. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il revienne totalement. Ce n'est qu'une question de seconde, dorénavant, et il sera là à nouveau. J'inspirais profondément. Je m'efforçais de conduire avec calme, avec application. Lorsque je regardais Jacques, la minute suivante, il était encore mieux revenu. Simplement, il était toujours en prise exclusive sur quelque chose du dedans. Avec soulagement, je vis s'il battre. D'ici peu, nous pourrions dialoguer ensemble, ainsi qu'à l'habitude. Mais j'en étais convaincu. Il n'en avait pas été de même dans les 5 minutes ayant précédé. je m'efforçais de chasser définitivement mon malaise. Cela revenait à disperser avec les bras une fumée autour de soi. Mais à la longue, on y parvenait. Machinalement, je déplaçais un objet sur le tableau de bord, à mi-chemin entre nous. Je fis cela sans nécessité, à seule fin d'éveiller l'intérêt de Jacques, si cela se pouvait. Il tressaillit. Ses yeux bougèrent, se posèrent sur cet objet. Il soupira même. Allons, tout était terminé. Nous étions sur la plage le surlendemain. Il y avait du soleil, le vent. Jacques, allongé sur la serviette près de moi, s'est étendu d'ambre solaire. Il avait disparu derrière ses lunettes noires. Depuis plusieurs minutes, chacun se laissait absorber par ses pensées. Quand il bougea, il s'adressa à moi. Je fus surpris par cette pointe d'irritation dans sa voix. Il dit « Tu sais bien que je n'ai pas de carte, ici sur la plage. »« Pardon, » fis-je. « Tu me demandes la carte. » Sidéré, je ne répondis rien. « Pareille question !» estima-t-il en écartant un grain de sable sur son coude. « Je ne t'ai pas demandé la carte, » fis-je avec un calme qui me surprit moi-même. « Je ne t'ai rien demandé, je n'ai pas parlé. »« Si, à l'instant. » Sans doute regardais-je Jacques avec intensité alors. Lui-même ayant ôté ses lunettes me fixait étrangement. « Jacques, » dis-je avec le plus grand calme, « tu as dû t'assoupir un instant et t'imaginer entendre ces paroles. » « Mais je te le jure, je ne t'ai pas parlé de cette carte à l'instant, ni de quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas proféré un seul mot. » Je repris. « Je sais bien que la carte n'est pas ici, et d'une, et de deux, je n'en ai aucun besoin. Je ne vois pas pourquoi je te l'aurais demandé. » Jacques avait pris le parti de se rallonger. « J'ai dû rêver, » conclut-il. « Ou toi ?» C'est singulier parce que tu as ajouté, et ici Jacques ne put s'empêcher de m'imiter, la carte qui n'est pas à sa place habituelle, je te le signale, vu que tu l'as glissée distraitement dans ton sac tout à l'heure. Que s'est-il passé ce soir-là sur cette route bordée de genêts, en buissant bien plus haut que nous-mêmes? Oui, que s'est-il passé sur cette route perdue et inconnue de nous? Jamais je ne le saurai. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait jamais. Celle-ci en est une. Et jamais je ne saurai. Jamais je ne saurai. On enchaîne avec un petit peu de musique et on se retrouve pour notre deuxième histoire. Vous êtes bien sûr à l'écoute au plus profond des ondes. L'émission un petit peu insolite et bizarre, où j'écraine quelques histoires hors du commun, semaine après semaine. You have to know. Parlons à présent de réincarnation. De réincarnation individuelle. Wendy est une jeune américaine qui, en 1997, amène son fils de 3 ans en vacances à Hawaï. Il adore la plage, mais alors qu'il nage très bien en piscine, il refuse obstinément d'entrer dans l'océan. À force d'insister, sa mère reçoit une réponse qui lui cloue le bec. « Quand j'étais grand, j'ai fait du surf ici, je suis tombé dans l'eau et je me suis envolé dans le ciel. Après, je suis revenu. » Réaction typique d'un enfant qui construit des fictions pour détourner ses peurs, ou bien souvenir issu d'une vie intérieure. Strange, note. Plus de la moitié des habitants de la planète considèrent la réincarnation comme un processus naturel, le principe même de la vie. Et ça ne date pas d'hier. Contrairement à l'idée répandue, ce n'est pas non plus une spécialité purement orientale. Si les premières traces de cette croyance ont été découvertes en Égypte, Anubis et ses gardiens du seuil obligeant l'âme du défunt à retourner se purifier sur Terre afin de pouvoir gagner la zone céleste, elle a été enseignée en Grèce par Platon, Pythagore et Pindare. Chez les Romains, Sénèque et Cicéron la mentionnent tandis qu'Ovide en donne les clés. Il dit ceci, « Le secret de la tombe est également celui du berceau. » Et Jules César nous apprend que nos ancêtres les Gaulois étaient persuadés eux aussi que l'esprit passe d'un corps à l'autre. Pour les Juifs, la notion de roulement des âmes, le gigal, est exprimée en ces termes dans le Zohar des Hébreux. Je cite « La naissance de l'homme ici-bas ainsi que la mort ne provoque qu'un déplacement de l'esprit. » Quant à la religion chrétienne, il lui est arrivé d'enseigner la transmigration des âmes selon le monde essénien. On peut lire cette doctrine « Chaque âme a existé depuis l'origine. Elle arrive dans ce monde renforcée par les victoires ou affaiblie par les défaites de sa vie préalable. » écrivait Origène, l'un des pères de l'Église. Et puis le deuxième concile de Constantinople, en 553, promulgua l'interdiction de cette croyance. Ne resta que l'incompréhensible bricolage théologien de la résurrection des corps, réduisant l'évolution des âmes à une invasion de morts vivants sortant de la tombe au jour du jugement dernier pour être déférés devant Dieu. Telle est la doctrine catholique. Mais c'est bien sûr dans les cultures fondées sur l'enseignement bouddhique en Inde et au Tibet que la réincarnation institutionnalisée a laissé des traces les plus troublantes et a permis d'effectuer jusqu'à nos jours les meilleures études sur ce phénomène. Car, en la matière, l'investigation va bien au-delà des croyances. Les indices les moins sujets à caution proviennent du récit de jeunes enfants décrivant leur vie d'avant, citant des lieux, des noms, des événements inconnus d'eux, aisément vérifiables. La première enquête sérieuse sur le terrain fut commandée par le Maharaja de Bharatpur au début du XXe siècle et reproduite en France par le docteur Gelet dans la revue Métapsychique en 1934. Elle faisait de la réincarnation l'explication la plus logique à la double identité de plusieurs enfants, leur personnalité antérieure, tendant à se résorber dès lors que l'on les avait conduits à leur demande sur les lieux de leur précédente incarnation ou après des manifestations d'amour, de pardon ou de nostalgie, ils prenaient congé de leurs anciens proches. Mais la plus grande étude jamais entreprise le fut par le docteur Jan Stevenson, 1918-2007, directeur du département de psychiatrie à l'Université de Virginie. À partir de 1961, ce chercheur infatigable voyagea dans le monde entier durant plus de 40 ans pour récolter des milliers de témoignages d'enfants, passés au crible de sa rigueur scientifique et de sa méticulosité d'enquêteur. Son approche, sa méthode, ne sont pas sans rappeler celle du philosophe Emmanuel Kant, disant à propos de la réincarnation « Par une réserve qui paraîtra singulière, je me permets de révoquer en doute chaque cas particulier, et pourtant de les croire vrais dans leur ensemble. Sur plus de 10 000 cas particuliers recensés, 2 500 furent retenus, entrés dans la base informatique de l'Université de Virginie, après la validation des témoignages par résultat d'enquête, documents officiels et rapports psychiatriques. De son étude initiale de 2000 pages, Stevenson a extrait les 20 dossiers les plus stupéfiants et les a publiés dans un livre grand public qui a fait le tour du monde. Quand je l'ai rencontré au festival Sciences Frontières en 1995, je lui ai demandé quel cas l'avait le plus marqué. Il m'a cité celui d'un petit garçon de 4 ans habitant un village près de Beyrouth, qui avait donné, outre le nom de sa famille précédente, vivant à l'autre bout du Liban, 70 détails personnels concernant l'homme qu'il avait été, y compris les derniers mots prononcés lors de son agonie. Tout put être vérifié, authentifié. Et ce n'était pas le cas le plus exceptionnel au niveau des confirmations factuelles, m'a précisé Stevenson. Ce qui l'avait marqué profondément, c'était l'émotion d'un petit garçon refaisant, sur un ton de gratitude amoureuse, ses adieux d'ancien vieillard. Malgré la masse considérable de cas inexplicables par le hasard, la schizophrénie, l'imagination ou la fraude, Stevenson, un bon scientifique, obsédé par le danger de ne voir que les choses qu'on entend démontrer, refusa toujours de se prononcer en faveur de la seule hypothèse de la réincarnation. Son dernier article publié se conclut par cette phrase « Ne laissez personne penser que je connais la réponse. Je cherche encore. » Et de fait, ses travaux se poursuivent aujourd'hui, en dépit de sa mort, non pas qu'il se soit réincarné pour continuer ses recherches, mais par le biais de son assistant, le docteur Jim Tucker, qui a repris le flambeau. Dans 68% des enquêtes confie ce dernier, on découvre que les déclarations de l'enfant correspondent parfaitement à la vie d'une personne qui est morte. Nous avons trouvé des cas sur tous les continents sauf en Antarctique. Cela dit, personne n'est allé chercher là-bas. On peut découvrir son témoignage dans le film de Natacha Calestrémé et le livre de Myriam Gablier, deux documents aussi passionnants que sérieux qui font le point sur les cas de réincarnation apparente les plus extraordinaires de ces dernières années. Outre celui que j'ai raconté précédemment, l'histoire du petit James hanté par l'aviateur dont il possède les souvenirs exacts, une autre histoire m'intrigue à plus d'un titre, celle de Trinley Tulku. Une des conséquences de l'aventure qui lui est arrivée en 1986, à peine sortie de sa poussette, est un changement d'état civil tout à fait officiel. Son nom actuel n'est ni un pseudo, ni le patronyme d'un parent biologique ou adoptif, mais celui qu'il est censé avoir porté dans sa vie précédente. Fils d'une Américaine et d'un diplomate français, il a tout juste 2 ans lorsque ses parents, fraîchement convertis au bouddhisme, l'amènent avec eux en Inde, où ils ont décidé de suivre l'enseignement d'un maître spirituel, le Karmapa. Celui-ci vient à peine d'entamer un cérémonial devant un milieu de personnes lorsque le bébé, échappant à ses parents, se dirige vers lui dans un dandinement résolu et monte sur ses genoux. Le dignitaire bouddhiste lui sourit d'un air attendri. Un quart de seconde, puis son visage se métamorphose et il s'incline soudain devant le marmot avec un air de respect. Réputé avoir le don de reconnaître les réincarnations, le Karmapa l'a immédiatement identifié comme le nouveau corps d'accueil d'un grand lama tibétain récemment décédé, Tulku. Le bambin, comme pour lui donner raison, se met alors à lui répondre en tibétain. Stupeur des parents. Personne ne lui a enseigné cette langue, l'une des plus difficiles à apprendre. Il a parlé spontanément et sans accent. Du jour au lendemain, son comportement change de façon radicale. Il s'exprime comme un vieux sage local, ne boit plus que du thé au beurre rance, assomme tout le monde avec ses rituels, exige de faire ses prières avant chaque repas et d'habiter un monastère. Devant une insistance aussi obsessionnelle, ses parents, qu'il contraint en d'incessants allers-retours en Inde, entre l'Inde et la France, finissent par céder. à 3 ans. Trinley, tel coup, devient moine. Comme on peut le voir dans un article de Psychology Magazine, il rit aux anges tandis qu'on lui rase le crâne dans la communauté spirituelle de Darjeeling, qui l'accueille avec tous les honneurs dus à son rang d'avant. Dès lors, il sera élevé par des professeurs comme Lama Tenzang, qu'il a bien connu dans son incarnation précédente de Tulku, et estime avoir la même connexion forte avec les deux versions successives du même maître. Il faut dire que Little Buddha était légèrement attendu. Son prédécesseur avait toujours rêvé de se rendre en France, mais il n'en avait pas eu le temps dans cette vie-là. « Je me réincarnerai en Occident », avait-il prévenu. Et toc. On reste abasourdi devant cette histoire à prier debout, étayée dans le film de Natacha Calestrémé par les lamas témoins de l'empreinte psycholinguistique du réincarné, mais aussi par les souvenirs et les émotions que ce dernier nous livre. Trinley aujourd'hui a un peu moins de 30 ans. Il évoque devant la caméra ses prouesses de bébé sur un ton très naturel et vit pleinement sa double existence avec une euphorie qui saute aux yeux. Ses parents n'ont pas souhaité s'exprimer à l'écran ni dans la presse. Faut-il les soupçonner en tant que bouddhistes d'une mise en scène au service de la cause tibétaine? Certains rationalistes n'ont pas hésité à le faire, au nom du doute méthodique cher à Descartes. Mais est-il bien cartésien de laisser entendre que l'ancien diplomate, entre deux biberons, aurait appris le tibétain à son nouveau-né, comme d'autres géniteurs transforment leur niar en star de la pub pour couche-culotte? Et peut-on raisonnablement accuser les autorités spirituelles tibétaines d'avoir été complices d'une manipulation médiatique ne pouvant que retomber sur leur communauté déjà soumise à suffisamment de persécutions? Il n'est pas inintéressant, en revanche, de noter que le précédent, Tulku, est mort à l'aube de ses 17 ans. D'après les statistiques publiées par Jan Stevenson, 70% des personnes censément réincarnées dans les enfants qu'il a testées sont morts de façon prématurée ou violente, voire criminelle. L'urgence de poursuivre son œuvre ou de régler ses comptes dans un nouveau corps expliquerait-elle la fulgurance, la brutalité de ces transferts d'âme? Stevenson cite le cas d'un autre gamin qui, bassinant ses parents avec son ancienne vie de mécanicien dans un garage, passait des heures sous le canapé familial à réparer la voiture représentée par ce meuble. Une voiture qu'il n'avait pas eu le temps de finir durant son incarnation précédente. Oui, il y a de quoi sourire. Enfin, dans le même genre bricoleur obstiné, un bambin nommé Parmod, né en 1944 en Inde, refuse obstinément de boire du lait en criant que ça l'a tué la dernière fois. En revanche, il est obsédé par la limonade et les biscuits qu'il fabrique dès l'âge de 2 ans avec les ingrédients qu'il trouve. Boue, fleurs écrasées et bouse de vache. Quand on lui reproche de faire des saletés, il le prend de haut. Il dit qu'il est l'un des frères Mohan, qu'il possède une grande boutique de limonade et biscuits à Moradabad, une ville très éloignée dont personne autour de lui n'a jamais cité le nom. Il ajoute, avec un regard méprisant pour sa famille modeste, que tout le monde adore ses produits et qu'il est très, très riche. Ce qui ne l'empêche pas, à partir de 4 ans, de sombrer dans de mauvaises crises de désespoir angoissées par la situation de son entreprise. Il demande en pleurant qu'il s'occupe du magasin en son absence et que deviennent ma femme, mes 4 fils et ma fille. Se lamente-t-il sans fin. Il harcèle ses parents pour qu'ils le ramènent chez lui. Lorsque ceux-ci, n'y tenant plus, entreprennent de faire le voyage pour lui prouver que tout cela n'existe pas, il tombe à la renverse devant la devanture du fabricant de limonade et biscuits, Mohan, frère. D'autant qu'ils apprennent que le cadet de la fratrie, Parmamand, est mort d'une indigestion de lait caillé 16 mois avant la naissance de Parmod. L'enfant de 5 ans reconnaît toute son ancienne famille, appelle les employés par leur nom, embrasse sa veuve, ses 4 fils et sa fille. Puis, Il fit le s'installer devant la machine à fabriquer de la limonade industrielle. Il en connaissait parfaitement le fonctionnement, écrit le docteur Stevenson qui a interrogé tous les témoins de la scène. L'eau avait été coupée pour l'induire en erreur, mais il comprit, sans l'aide de personne, comment cette machine des plus compliquées devait être réglée. Rassuré sur l'état de son entreprise, de sa famille d'avant, Parmod reprit sagement le cours de sa nouvelle vie dans la caste inférieure où le destin l'avait relogé et perdit en grandissant l'obsession, sinon le goût, de la limonade et des biscuits. Chez ses enfants porteurs de la mémoire d'un tiers, un autre facteur commun se retrouve souvent, plus répandu que la pratique spontanée d'une langue étrangère ou la connaissance innée du fonctionnement d'une machine industrielle. C'est ce que le docteur Stevenson appelle les cicatrices mentales de blessures physiques. Une sorte de signe de reconnaissance. D'aide mémoire. Serait-ce un langage du corps pour aider l'esprit à retrouver ses marques? Tache de naissance à l'endroit d'un coup de couteau fatal. Urticaire autour du cou rappelant une décapitation. Torticolis en souvenir d'une mort par pendaison. Polyarthrite liée au supplice de la roue. Des centaines de ces pense-bêtes, parfois très douloureux, ont vu leur effet psychosomatique disparaître comme par enchantement dès lors que la trace historique de ces traumatismes a pu être retrouvée par les enquêteurs. À l'inverse, il arrive que ces marques soient tracées en amont sur le cadavre, au charbon ou à l'encre indélébile par la famille en deuil, qui invite ainsi le cher disparu à les reproduire dans la chair de son prochain corps afin d'éviter les malentendus. Le Dalai Lama lui-même raconte que son jeune frère, décédé prématurément, fut marqué au beurre dans l'espoir de l'identifier à son retour. Résultat, un nouveau fils portant une marque au même endroit fut considéré comme la réincarnation du défunt. Dans d'autres cas, c'est un organe qui est directement impacté sans trace corporelle extérieure. Ainsi, William, 5 ans après la mort de son grand-père John McConnell, policier new-yorkais tué en 1992 d'une balle ayant perforé son artère pulmonaire, naît-il avec une malformation de la valve pulmonaire à l'endroit précis de la blessure mortelle de John. Dès qu'il est en âge de parler, au fil des opérations qu'il subit pour pouvoir respirer normalement, l'enfant n'arrête pas de décrire la mort et la vie de ce grand-père, de donner des détails parfois inconnus de la famille, qui seront tous vérifiés. Jusqu'à la phrase qui répétait fréquemment le policier défunt à sa famille et à la mère de William. « Quoi qu'il arrive, je m'occuperai toujours de vous. » Alors, que penser de tout cela? D'après les travaux de Stevenson et Tucker, c'est vers l'âge de 7 ans que, généralement, les enfants coupent le lien avec la mémoire antérieure qui les parasite, à condition qu'on les ait crus et qu'ils aient réglé le problème, la dette ou le choix qui les relie plus ou moins consciemment à ce passé qu'ils revivent. Sinon, le lien en question continuera de faire des nœuds. La psychologue américaine Helen Wanbach est une des spécialistes qui dénonce l'accès karmique attaché entre eux. Il est bien dur pour certains adultes de marcher droit, un pied dans leur présent et l'autre dans le passé d'un tiers qui continue de leur envoyer des signaux. Wanbach est l'une des premières scientifiques dans les années 1960 à avoir utilisé la régression sous hypnose pour remonter aux vies antérieures et traiter ainsi les conflits qui s'incrustent. Si l'on considère les précisions historiques, les particularités géographiques ou linguistiques et les détails intimes vérifiés après coup, plus de 3000 des dossiers qu'elle a traités ne sont pas explicables, selon elle, par le simple imaginaire. L'autosuggestion, les fantasmes élaborés dans le subconscient. Le physicien français Patrick Drouot, à la suite d'Hélène Wanbach, se rendra célèbre dans le monde entier avec cet équivalent transgénérationniste d'une thérapie bien en vogue aujourd'hui, la médecine transgénérationnelle. Mais certains prestataires de services vont encore plus loin. C'est le cas de la médium Sylvie Nack, qui travaille comme déprogrammatrice de vie antérieure. Ben ouais, sa spécialité ? Ôter les javelots, les balles ou les éclats d'obus que les réincarnés trimballent, d'après elle, de vie en vie dans leur corps subtil. C'est arrivé par surprise la première fois. La personne qu'elle traite se plaint d'une douleur permanente au flanc droit, que rien ne soulage. Sylvie entend alors dans sa tête « Enlève le glaive ». Apparemment, le fait d'avoir péri dans une bataille de la Rome antique laisse des traces. La médium demande au glaive la permission de le retirer et la douleur au flanc disparaît pour toujours. L'ostéopathe Dominique Barthélémy, de son côté, souffrait de la hanche de façon chronique. Il confirme les compétences de Sylvie Nack. J'avais, semble-t-il, un certain nombre de flèches de javelots plantées dans le dos. Elle les a déprogrammées. En l'espace de 4 ou 5 jours, la douleur a pratiquement disparu. Depuis, elle n'est jamais revenue. En dehors de ces réussites assez rares dans le domaine du désarmement, que peuvent soigner ces scénarios de vie passée qui remontent à la surface ? Tout, apparemment. Les phobies, les allergies, les somatisations, les problèmes relationnels. Cela dit, les sceptiques remarqueront avec justesse que, lorsque notre inconscient a un message à nous faire passer, il est parfois moins dérangeant de le mettre dans la bouche d'une incarnation passée. Le docteur Raymond Moody, psychiatre immortalisé par son best-seller « La vie après la vie », le reconnaît lui-même. Quand la créativité de l'inconscient est sollicitée par l'hypnose, elle peut nous entraîner dans des voyages magiques plus réels que nos rêveries. Au départ, Moody ne croyait pas du tout aux existences antérieures, mais continuait d'accompagner ses patients sous hypnose dans ses prétendues réincarnations, tant leur vertu thérapeutique lui semblait une évidence. Un jour, écrit-il, j'ai fait régresser un macho de première. Nous avons découvert que dans une vie précédente, il était homosexuel. Il fut très choqué et quelque peu gêné. Je reste persuadé que, inconsciemment, ce mode de vie l'intéressait. Sous hypnose, il se sentit suffisamment détendu pour se laisser aller librement à sa curiosité. L'expérience le rendit moins partial à l'égard des femmes et plus compréhensif envers les homosexuels. Explorer les parties secrètes de notre personnalité sous couvert de vie antérieure constituerait donc une forme de psychanalyse efficace. Mais cela ne résout en rien le mystère des informations inconnaissables, réelles, vérifiées, impossibles à truquer, dont tant d'enfants ou d'adultes sous hypnose se sont retrouvés dépositaires à leur insu. Moody en convient. La première régression qui a quelque peu ébranlé son scepticisme, c'est celle où un peintre américain indien, très réputé mais en crise d'inspiration, se mit soudain à parler allemand. Situation qui posa un léger problème à l'hypnotiseur qui, lui, ne comprenait que l'anglais. Il réussit à convaincre son patient de pratiquer la traduction simultanée sans lui faire quitter la période ni le lieu où il était tombé. D'une existence de compositeur bavarois frustré, résigné à écrire entre deux bières des symphonies qui ne seraient jamais jouées, le peintre en panne, qui à l'état normal ne parlait pas un mot d'allemand, ramena l'information nécessaire pour supprimer les effets secondaires d'une célébrité trop astreignante et redevenir un créateur prolixe. L'information. Une fois encore, c'est sans doute le maître mot, la finalité de ces mémoires, parasites, un moyen de transmission beaucoup plus répandu que je ne le croyais avant de me plonger dans les dossiers d'enquête. D'une puissance analogue aux quelques exemples cités ici, des milliers d'autres cas suggérant le phénomène de réincarnation, pour reprendre le titre pudique donné par Jan Svensson à son colossal travail d'investigation, confinent à la preuve indéniable. Mais la preuve de quoi ? D'un voyage de l'âme d'un corps à l'autre ? sous forme d'ego enrichi à chaque incarnation, ou d'un regroupement plus ou moins aléatoire de mémoires diverses qui fusionnent pour constituer un individu. Notre cerveau est-il un logement individuel ou une résidence en copropriété ? Voilà une question pertinente. Partisan de cette hypothèse, Jung disait à Freud que l'inconscient est une concierge qui ne connaît pas tous les habitants de l'immeuble. Belle formule à méditer. On se trompe souvent sur la conception bouddhique de la réincarnation, sauf dans le cas exceptionnel du Dalai Lama, d'un Karmapa ou d'un Tulku se recyclant en globalité pour pérenniser leur statut de maître spirituel. Les bouddhistes ne disent pas « j'étais X ou Y ». Mais ce que je ressens actuellement a été éprouvé par X ou Y dans le passé, et j'en suis aujourd'hui le réceptacle. Ce qui autorise l'existence de plusieurs réceptacles ou le vécu, les émotions, les traumatismes et les messages de X ou Y peuvent venir se greffer par choix, aimantation, affinité ou accident. Petite réflexion. Est-il possible, à l'inverse, qu'une seule et même personne accueille plusieurs mémoires antérieures? Eh bien, sachez que on a parlé de réincarnation individuelle, personnelle, mais il existerait des réincarnations collectives. Et ce sera l'objet d'une prochaine histoire, dans une prochaine semaine. Et d'ailleurs, surtout, ne quittez pas l'antenne pour d'autres histoires extraordinaires. Je vous dis donc, bonne semaine, et surtout, méditez bien.
Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Thank you.
mais